e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp.
Une agence en pleine transition éthique.
Tous les 3 mois, on explore une nouvelle initiative éthique que l'on veut mettre en place dans l'agence. L'occasion de sensibiliser et de se former pour accélérer notre transition éthique. Et quoi de mieux pour se former que de faire intervenir des experts et expertes passionnés par ces différents sujets? Vous aussi, vous voulez rendre vos pratiques plus éthiques? Alors plongez avec nous dans l'enquête. On vous embarque dans nos rencontres et nos échanges à travers une série de podcasts qui vous accompagnent au cœur de nos enjeux éthiques. De quoi vous inspirer avec des solutions concrètes pour votre activité professionnelle.
Après 3 mois d'enquête et 4 épisodes, nous y voyons beaucoup plus clair sur les enjeux de l'accessibilité et l'inclusion. Au fil des podcasts, nos 5 intervenants et intervenantes nous ont partagé leurs expériences, motivations, connaissances et surtout leurs précieux conseils. Leurs interventions étaient très constructives pour nous et enrichissantes pour nos méthodes. Comme annoncé, ces échanges nous ont permis de définir un plan d'action pour l'agence. L'objectif ? Optimiser nos savoir-faire et pratiques pour être plus accessible et inclusif. Dans ce dernier épisode de la série, j'échange avec Angèle, notre chargée de projet, sur les golden tips de nos intervenants et intervenantes. Mais aussi et surtout sur nos actions concrètes à venir. De quoi vous donner des idées ou vous informer sur ce qui peut être mis en place pour optimiser l'accessibilité et l'inclusion dans vos activités professionnelles. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti, plongez avec nous dans la concrétisation de notre première enquête. Pour bien commencer cet épisode, on a demandé à nos intervenants et intervenantes habituelles leur conseil ultime pour plus d'accessibilité et d'inclusion. Ils nous ont toutes et tous donné leurs golden tips pour vous aider à vous lancer. Natacha de Product for Good recommande par exemple d'avancer étape par étape. L'essentiel, c'est de se lancer, de tenter. Il faut surtout accepter le fait qu'on ne peut pas être parfaite dès le début. Il vaut mieux faire des efforts sur la durée pour atteindre ses objectifs, plutôt que concentrer ses efforts au début et d'espérer que tout se passera bien. Fernando, quant à lui, recommande de consulter les ressources et référentiels. On en a partagé beaucoup dans les épisodes précédents et il est important de se baser sur ces référentiels et ces ressources pour avancer de la meilleure des façons. Julie, la lutine du web, recommande, elle, de se faire former par des personnes compétentes, ce qui nous permettra de comprendre les règles et les référentiels qu'on applique. Chloé, qui est formatrice certifiée OpQuast, recommande elle aussi de se faire former et de s'informer à titre personnel également. Il est aussi très important pour elle d'intégrer le fait qu'il n'y a pas de solution miracle, que ça demande des efforts sur le long terme. Et enfin, Nicolas recommande de ne pas perdre de vue les utilisateurs et utilisatrices et leurs usages spécifiques. Il faut vraiment être à leur écoute et leur donner la parole dans le cadre de tests par exemple. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Angèle pour nous dire ce qu'elle pense de ces golden tips.
Bah, tout d'abord, moi je voulais encore une fois, tu l'as déjà fait, mais remercier vraiment très chaleureusement toutes les intervenantes et les intervenants qui ont participé à tout ça. Nous, du point de vue Hippocamp, c'est très enrichissant, c'est très précieux. Et de mon côté, je suis déjà très sensibilisée à l'accessibilité. J'avais déjà beaucoup commencé à me former avant d'arriver chez Hippo. Et je pense que ça peut participer à booster les équipes, à motiver mes collègues, que ce soit au niveau dev, au niveau design, au niveau communication. Moi, je ne comptais pas arriver et puis toute seule essayer de répandre un bon message. Et au contraire, je suis arrivée dans une équipe déjà très impliquée, très motivée, qui avait déjà toutes ces démarches en route. Donc, c'est vraiment très agréable. Et puis là, d'avoir tous vos conseils, enfin tous les conseils qui ont été donnés, qui sont des conseils professionnels, qui sont des conseils avisés, qui sont des conseils de personnes concernées. Moi, évidemment, c'est des choses, je peux que être 1000 fois d'accord, et puis je vais même pas être d'accord, j'ai pas mon avis à donner là-dessus, en fait. Je crois que moi, d'un point de vue personnel, ça m'a confortée dans mon idée de m'y mettre à fond, dans mon idée que aujourd'hui, le web ne peut être qu'accessible. C'est bon, on avance, quoi. Il faut y aller, là, il n'y a plus le temps d'attendre. On a vu les normes d'accessibilité des bâtiments, par exemple. C'est quand même très récent qu'il y a eu des obligations qui ont été mises en place, et encore, tout n'est pas respecté aujourd'hui, tout n'est pas encore terminé. Alors moi, j'espère grandement que les choses avanceront beaucoup plus vite dans le web qu'elles n'ont avancé dans la vie en dehors du web.
On constate que toi, par rapport à ton parcours personnel, tu as un peu suivi ce que Chloé recommande, c'est que tu t'es déjà formée toute seule, un peu, tu t'es informée, tu t'es sensibilisée et tu t'es ouverte à ces problématiques-là.
Oui, c'est vrai que dans ma vie perso, en fait, moi, j'ai pas commencé ma vie professionnelle dans le web, ma carrière numérique qui vient d'une reconversion. Et j'ai la chance, je vais considérer ça comme une chance, j'ai la chance d'avoir en parallèle de tout ça un parcours militant, mais militant en globalité, militant dans plein de domaines, dont les domaines de l'accessibilité, l'inclusivité. Et naturellement, à travers ma reconversion, j'ai directement pris ce côté-là du web. Je me suis dit, il est hors de question que je me forme sans prendre en compte ces problématiques dès le départ. Donc, quand j'ai appris à faire des bouts de code en HTML, en CSS au début, toute seule ou et compagnie, j'ai directement pris entre plein de guillemets des bons réflexes de m'informer, d'essayer de comprendre ce qu'il faut faire, d'essayer de comprendre ce qui doit être fait. Alors évidemment, de la même manière que me former seule au web, au bout d'un moment, c'était plus possible et c'est pour ça que j'ai décidé de me professionnaliser et d'attaquer une, entre plein de guillemets, vraie formation professionnelle à temps plein et d'y consacrer l'énergie suffisante, on va dire. Le travail de personnel, de sensibilisation, de me mettre dedans, de comprendre de quoi on parle, c'est bon, il est fait. Et maintenant, c'est l'heure aussi de prendre le temps de se former concrètement avec des professionnels pour solidifier des bases qui sont déjà bien présentes. Et du côté de la team Hippo, je pense que tout le travail de sensibilisation et d'implication dans ce projet d'accessibilité, tout ce travail-là, il est fait. Et on est pareil, on est pour moi, pour mes collègues dev, design et compagnie, l'heure de la professionnalisation est arrivée. Quoi.
C'est vrai que tu es tombée vraiment à pic. On était au début de nos démarches pour plus d'accessibilité et d'inclusion. Et c'est vraiment top d'avoir une personne motivée en plus à nos côtés pour s'investir.
Ça se voit pas, mais je rougis.
On le disait, cette enquête, elle nous a aussi permis du coup de nous interroger en interne sur ce qu'on pourra optimiser chez Hippocampe. Par exemple, au sein du pôle communication, avec Marine et Cody, on a déjà optimisé certaines de nos pratiques dans ce sens. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on vous a parlé de l'évolution de notre charte graphique. On s'est aperçu, par rapport au retour qu'on a eu de nos intervenants et intervenantes, que nos visuels n'étaient pas du tout accessibles, en termes de contraste notamment. Et donc, on a fait évoluer toutes nos couleurs pour atteindre un ratio de contraste qui est de 4,5, qui est plutôt pas mal. On est assez fiers de nous. Et on a aussi mis en place, comme autre initiative vers plus d'accessibilité au sein du pôle com, on a aussi mis en place des alternatives accessibles pour nos contenus, notamment les podcasts qu'on produit. La série sur l'accessibilité et l'inclusion, elle nous a permis de nous lancer dans la joie des retranscriptions. Donc c'est assez long et contraignant, mais ça nous fait très plaisir que ça puisse être accessible pour toutes et tous. Et on a aussi fait évoluer notre lecteur pour mettre à disposition le fichier MP3 qui permet une meilleure prise en main de l'audio avec une liseuse par exemple. Évidemment, on peut encore s'améliorer, on peut toujours s'améliorer et on a de nombreux défis à relever encore. Le prochain défi pour le pôle communication, ce serait d'avoir à disposition les contenus audiovisuel de manière accessible. Donc c'est déjà possible sur le site web via des balises ALT, mais aussi sur les réseaux sociaux avec l'alternative texte. Mais en fait, il y a une limite de caractère sur ces alternatives texte. Et dans le cadre de visuels et de contenus, comme par exemple le quiz sur plusieurs slides, avec beaucoup de contenus qui sont dans les visuels, on n'a pas encore vraiment trouvé d'alternatives qui nous conviennent. Mais on sait que c'est possible de mettre le contenu qui apparaît dans les visuels, par exemple, en description, en commentaire, ou même de changer complètement les visuels. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Qu'on va continuer à mener pour continuer à s'optimiser toujours et encore. Et évidemment, on est ouvert et ouverte à toute suggestion pour optimiser encore notre communication dans ce sens. Angèle, peut-être que tu peux nous parler un peu de ce qu'on envisage au sein des autres pôles de l'agence en termes d'accessibilité et d'inclusion.
Eh bien oui, moi je vais parler principalement au niveau développement web. Évidemment, je sais que ce que je vais dire là, on est dans un idéal et que les choses doivent se faire nécessairement petit à petit. Il y a des compétences techniques à acquérir, il y a des choses, ça va être très simple de faire grandement attention à remplir correctement nos attributs ALT sur les sites qu'on va développer. Par contre, l'utilisation des technologies ARIA, etc., ça peut demander un temps un peu plus long. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'aimerais vraiment pour Hippocamp, c'est déjà, en fait, qu'on considère que l'accessibilité, c'est la base. C'est pas quelque chose en plus. Je me souviens qu'une fois, j'en ai discuté avec un collègue, j'ai dit, mais en fait, moi, demain, je vais acheter des chaussures. Quand je vais acheter mes chaussures, j'attends qu'il y ait des lacets à mes chaussures. C'est normal, c'est la base. J'achète des chaussures, il y a des lacets avec. Je ne vais pas demander au vendeur de mettre des lacets en plus. Le vendeur, il va me les mettre de base. Mais moi, l'accessibilité, c'est pareil. J'ai un client qui vient me demander un site. L'accessibilité, c'est fourni avec. C'est dans le lot, c'est comme ça, c'est normal. Ça doit faire partie du projet. Évidemment que c'est bisounours, idéaliste, tout ce qu'on veut. Évidemment que mes collègues derrière, qui sont chargés de respecter des deadlines, qui sont chargés de dev et compagnie, vont me dire « Mais Angèle, qu'est-ce que tu nous demandes là ?» Enfin voilà. Je sais que ça prend du temps, je sais que ça prend des compétences, je sais que dans un projet, ça représente... si ça ne représente pas une ligne financière, c'est que ça représente une ligne de temps pour l'équipe. Mais c'est dans cet esprit-là que j'ai envie qu'on continue à avancer.
Donc pour résumer un peu cette vision, l'objectif final, ce serait vraiment qu'on tende à normaliser l'accessibilité dans tous nos projets et qu'on garantisse ainsi une qualité web pour toutes et tous, quoi.
Et, exactement, c'est exactement ça. Évidemment, je sais très bien qu'on n'atteindra pas comme ça dès demain un 100% au RGA, par exemple. Mais j'ai envie que naturellement, on y tende et que c'est en mettant en place des réflexes, des habitudes, que nos projets vont continuellement s'améliorer et que ce qui aujourd'hui nous paraît contraignant et long à mettre en place, demain ce soit automatique de notre part et qu'on puisse comme ça grandir en continuant d'avancer dans les différentes technologies, les différents dispositifs à mettre en place. Et évidemment qu'on... les sites qu'on développe pour nos clients ne sont pas forcément des sites de grosse administration française. On n'a pas encore le site des impôts, par exemple, comme client, mais peut-être que demain, on l'aura. Et évidemment qu'on a conscience qu'il y a des sites qui, de par leur utilité, doivent être plus accessibles, entre guillemets, que d'autres. Évidemment, l'avenir idéal, c'est tous les sites accessibles 100%, mais on sait qu'il y aura des priorités. Et puis, de ce que j'ai retenu en écoutant attentivement les podcasts, les podcasts enregistrés, c'est faire attention notamment, la page est accessible, le site est accessible ou autre, mais il faut que toute la démarche soit accessible. Et si sur un site internet, j'utilise un plugin, j'utilise un embed, j'utilise une autre technologie qui ne dépend pas de nous, mais qui est utilisé sur notre site, il faut que je vérifie l'accessibilité de cette fin de démarche sur un paiement carte bleue, par exemple. Si moi, tout le parcours que je développe, il est accessible, mais qu'au moment de la carte bleue, c'est quelque chose qui est développé par une autre société que j'utilise, il faut que moi, je sois en mesure de vérifier l'accessibilité de cette partie-là. Donc c'est vraiment...
aller au fond des choses.
C'est aller au fond des choses, et puis j'ai l'impression que... je sais qu'on va se heurter à des frustrations, parce que je sais que parfois, on aura... plus les outils en main, ce sera plus de notre ressort, ce sera à l'autre société de faire son travail de son côté. Et voilà, je pense sincèrement que c'est à travers un effort collectif de sensibilisation dans les équipes que les énergies se mettront à circuler et puis que chacun de notre côté, on va pouvoir faire en sorte d'avoir un web global connecté, accessible, inclusif, efficace.
Et donc si on devait résumer concrètement ce qu'on pourrait mettre en place à l'agence pour plus d'accessibilité et d'inclusion dans les semaines et mois à venir, il y aurait la dimension de formation, former tous les pôles et tous les membres, toutes les parties prenantes de l'agence pour un effort commun, conséquent et avec des vraies retombées qui fonctionnent. On pourrait aussi éventuellement établir une liste des fonctions accessibles qui pourraient être intégrées à nos projets, et ce, dès la base. Donc ça s'adresse plus peut-être aux développeurs. Il y a aussi, par rapport à nos offres, tu le disais, que l'accessibilité soit une norme et que, du coup, on accorde notre discours auprès des clients et aussi dans nos offres.
Oui, complètement.
Soit inclus, quoi.
Complètement, qu'on puisse avoir, nous, ce discours directement auprès du client, même si la demande ne vient pas du client. Il va falloir que nous, on soit en capacité d'argumenter clairement, posément, de ne pas donner au client l'impression de leur retirer leur projet des mains, mais de leur expliquer que ce sera largement en leur faveur aussi d'avoir cette accessibilité-là mise en place sur leur site.
pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans les, dans les épisodes précédents.
Oui, tout à fait. Que ce soit un engagement ou que ce soit pour des raisons financières ou que ce soit, quelle que soit la raison, la chute sera bonne.
Y a aussi une grosse tâche à venir dans le cadre de la refonte de notre site. C'est que là, on tend vers un objectif qui est plutôt très ambitieux et très altruiste, mais on a conscience que pour l'instant, on est loin d'être parfait et qu'on a encore beaucoup de travail, à commencer par notre site actuel, qui doit être revu et optimisé pour qu'il soit accessible. Ça, on en a conscience aussi. Après, il y a autre chose dont on a conscience, c'est qu'il faut rester objectif et que malgré notre enthousiasme, on a conscience qu'il y a des limites, des difficultés et que c'est un réel défi à relever. On sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tu le disais, et que ça va demander beaucoup d'efforts.
Oui, ça va demander un effort, mais l'effort, ça ne va pas être de le faire, ça va être de s'y mettre. À la fois, j'ai pas envie de faire circuler le message comme quoi c'est facile, il suffit de le faire, ça prend pas de temps, mais non, c'est normal. Voilà, non, parce qu'on a conscience de la réalité du terrain.
Et que ça demande un vrai investissement de temps, ouais, d'argent, de personnes.
Mais à l'inverse, j'ai pas non plus envie de faire paraître l'accessibilité comme une contrainte énorme pour les équipes. Non, il faut que ce soit fait en bonne intelligence pour que... Enfin, déjà, il faut faire comprendre l'intérêt de tout ça, tant aux clients qu'aux équipes. Et de là, on aura gagné beaucoup de choses. Mais c'est trouver un juste milieu, c'est-à-dire qu'il va pas falloir commencer avec des énormes checklists. Je sais qu'il va falloir adapter les points que tu disais tout à l'heure, là. Déjà établir une première liste qu'on va augmenter au fur et à mesure. Et c'est, oui, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais l'intention y est. Et ça va aller qu'en s'améliorant. Je sais que ça va aller qu'en s'améliorant.
Ben, on revient un peu sur le conseil de Natacha qui disait qu'il faut prendre ça comme une démarche qu'on attaque petit à petit, que l'essentiel c'est de se lancer, de faire de son mieux, qu'on ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Mais que ouais, c'est un effort collectif... où chacun doit s'investir à la hauteur de ses moyens et que si on fait l'effort tous ensemble, dans le cadre de notre agence en tout cas, ça peut que mener à quelque chose de bien, quoi.
Oui, et puis tu disais qu'on ne pourra pas être parfait du jour au lendemain, mais on ne pourra pas être parfait, en fait, jamais. Parce que parfois, je sais qu'il y a des handicaps qui sont contradictoires en termes d'accessibilité. Une personne malvoyante qui utilise le site internet sans utiliser de liseuse va avoir besoin d'un contraste élevé. Une personne... qui a des troubles de l'attention, une personne autiste ou autre, va peut-être avoir besoin de contrastes moins élevés et doux. Bon, bah voilà, on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, comment est-ce qu'on choisit ? Donc, il y a des sites internet qui permettent de régler les contrastes ou autre. Mais voilà, c'est toujours être en questionnement, toujours être au courant. Et pour être au plus proche des besoins des utilisateurs concernés, bah c'est le mieux, ça reste, comme l'ont conseillé plusieurs des intervenants, de s'adresser directement à ces publics-là. Donc, je sais bien qu'aujourd'hui, on ne soumet pas à des tests avec des personnes concernées tous nos sites. On les soumet à des tests d'utilisateurs qui ne sont pas concernés par ces problématiques d'accessibilité. Et il faut qu'à l'avenir, on s'attelle et on trouve une façon de faire en sorte d'avoir des testeurs qui sont concernés par ce qu'on a envie de mettre en place pour être au plus proche de leurs besoins. Donc ce sera aussi... pas uniquement que par des tests, nous, là, en live, en physique ou autre, ce sera aussi par des lectures, ce sera par des recueils de témoignages, ce sera en continuant à s'informer et à faire de la veille. Et ça va être mon boulot. et je sais que là, tous nos intervenants donnent des conférences, donnent des interviews, sont dans des podcasts, et la plupart des intervenants, je les connaissais déjà, parce qu'ils ont une présence sur le web qui est déjà... très très forte, et c'est grâce à tous ces contenus, tout ce travail, que c'est comme ça qu'on va réussir à faire évoluer les choses en prenant en compte les vrais besoins, pas juste en disant on fait des choses mais que derrière ce soit pas du tout cohérent avec la réalité, quoi.
C'est vrai qu'il y a toute une dimension d'informer, de sensibiliser nos prospects, nos clients, nos communautés, et ça c'est un peu chacun qui peut le faire. L'étape 1, c'est de s'informer soi-même, peut-être même aller jusqu'à se faire former, c'est très recommandé, comme le disaient nos intervenants et intervenantes, et que dans un second temps, ce qui est aussi essentiel et ce qui peut vraiment faire la différence, c'est de s'investir nous aussi en tant qu'alliés pour porter le message qui n'est peut-être pas dans nos besoins directement à nous, mais qui peut faciliter la vie et aider beaucoup de gens. Et ça aussi, c'est dans notre travail à nous, au sein du pôle communication, par exemple, une des missions auxquelles on s'attache d'informer et de sensibiliser nos communautés, quoi.
Mmh. Ouais, c'est notre boulot d'allié dans plein de choses. Je sais que moi, par exemple, une des premières barrières à laquelle je me heurte, c'est qu'un client qui va me demander un site sur lequel il y a un formulaire d'inscription. Ok, je m'inscris, nom, prénom, genre, monsieur, madame. Ben voilà, déjà là, on a un blocage. Et pareil, pour faire passer ça auprès d'un client, ben c'est... Je veux dire, il faut être sûr de ses arguments, il faut être renseigné, il faut savoir de quoi on parle. Et ben encore, enfin, je ne sais pas si j'ose dire malheureusement, mais la plupart des clients vont pas, pour l'instant, encore aujourd'hui, être sensibles à ça. On a des très grosses compagnies aujourd'hui, ça y est, c'est en place, c'est fait. Ça vient souvent des États-Unis, on le sait, et ça se met au fur et à mesure, petit à petit. Mais c'est par une information continue, c'est par une implication continue, même en dehors de notre travail, en étant à l'écoute, en étant sensible à tout cet univers-là, qu'on pourra retranscrire ça dans notre travail, oui.
Et ça demande de la déconstruction qui vient aussi d'une initiative personnelle, même si on n'est pas directement touché par ce type de discrimination, il tient qu'à nous de mettre nos pronoms sur LinkedIn, par exemple, pour que ça devienne la norme et que la norme évolue et que aussi bien l'accessibilité soit la norme de la conception web ou que les questions de genre soient la norme chez tout le monde et que ce soit OK et pas bizarre et pas discriminant d'affirmer un genre ou l'autre, quoi.
Bah, complètement, comme tu le dis. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ce terme de déconstruction depuis quelques années. Je suis d'accord. Déconstruisons ce qui est les monolithes qui existaient avant, les normes, les choses qui sont plus du tout de rigueur et qui aujourd'hui nécessitent un regard nouveau. Mais n'oublions pas de reconstruire. Une fois qu'on a déconstruit, reconstruisons des bases saines, reconstruisons des choses, ne laissons pas les choses déconstruites. Parfois, on déconstruit des choses et on se dit ben ok, j'ai déconstruit, c'était plutôt bien fichu, je vais en garder quand même une bonne partie. Je suis là pour garder le meilleur. Ça demande un travail, ça demande... Voilà, et après, derrière, on reconstruit avec des plus jolies bases.
C'est ça, déconstruire pour reconstruire des fondations accessibles, inclusives,
saines,
ouais. Solides. Mm-hmm. Merci beaucoup, Angèle.
Ben, merci.
Est-ce que tu as envie de rajouter un petit truc ?
Non, parce que je pense que les personnes qui ont été à ton micro précédemment ont vraiment bien ratissé le terrain. Et si vous avez encore des questions, bah, réécoutez les podcasts, réécoutez les premières interviews, écoutez les autres contenus que les intervenants ont pu produire partout ailleurs. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter et je suis très heureuse d'intégrer l'équipe Hippocamp qui fait tout ce travail qui me tient personnellement vraiment à cœur. Et je pense vraiment qu'on va pouvoir faire des jolis projets à l'avenir là-dessus.
Bon, on est ravis de t'accueillir et d'avoir un petit cerveau, un gros cerveau en plus dans ces démarches. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'évolution de nos démarches accessibles et inclusives, principalement Instagram. On va vous tenir au courant aux stories des évolutions à venir. Et on espère que ça va vous inspirer et qu'on va tous s'investir pour plus d'accessibilité et d'inclusion.
Notre série sur l'accessibilité et l'inclusion numérique touche à sa fin. Pour résumer cet épisode de conclusion et rendre notre enquête encore plus concrète, on vous a exposé les actions à venir à l'agence. Angèle se projette dans un objectif ambitieux, mais représentatif de notre volonté d'aller plus loin et de faire mieux. Normaliser l'accessibilité dans nos projets web et notre présence numérique. Voici 6 axes concrets d'amélioration qu'on envisage pour tendre vers cet idéal. Former notre équipe auprès d'un organisme agréé comme Access 42, rendre notre site web accessible, établir une liste de fonctionnalités accessibles à intégrer de base à nos projets, au même titre que la sécurité, accorder notre discours auprès de nos clients et dans nos offres, continuer à sensibiliser et informer nos clients, prospects et nos communautés, et enfin se creuser la tête pour trouver des alternatives accessibles à tous nos contenus sur les réseaux sociaux, malgré les fonctionnalités limitées de certaines plateformes. Angèle nous a préparé un complément d'information plus technique. Vous pouvez le retrouver dans notre article de blog dédié, dans l'encart « Bonus pour les devs et fans de technique », juste avant la retranscription du podcast. Bref, en tout cas vous l'avez compris, pour nous c'est cap sur l'accessibilité et l'inclusion pour 2022 et les années à venir. Et vous, on vous embarque ? Ce cinquième et dernier épisode clôt notre enquête sur l'accessibilité et l'inclusion numérique. La prochaine débutera d'ici quelques semaines et portera sur la pollution numérique. Un autre sujet fondamental pour rendre le web plus éthique. Pendant 3 mois, nous mènerons l'enquête auprès d'experts et d'expertes. Notre objectif, découvrir comment s'investir à notre niveau pour rendre nos sites web et nos actions sur Internet plus éco-responsables. À très vite !